Monsieur Boualem Sansal, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu à Lyon et en particulier sur le site La Clé des Langues de l'ENS. Nous aimerions connaître votre point de vue en tant qu'écrivain algérien de langue française, comme on dit, sur le rôle de la littérature. Et comment pensez-vous qu'elle pourrait réintroduire du lien entre les peuples et même peut-être faire en sorte que ces liens redeviennent conscients, puisqu'il y a eu des liens autour de la Méditerranée et que certains peuples ont tendance peut-être à oublier.
Alors, je ne sais pas si... C'est une question hyper difficile. On la pose depuis des siècles et on n'a jamais trouvé de réponse. La littérature... je dirais plutôt la culture. Hein. C'est plutôt la culture qui aurait cette vocation d'établir des liens entre les gens, des liens pas forcément positifs, ils peuvent être très négatifs. La culture est à la fois ce qui rassemble, mais c'est aussi ce qui sépare. Hein, aussi. C'est souvent les grandes séparations viennent de la culture. Voilà, donc c'est la culture. Et la culture, c'est comme les couteaux suisses. Hein, la littérature est un élément, mais il y a tout le reste. Il y a les échanges commerciaux. Je pense que c'est surtout les échanges commerciaux qui véhiculent la véritable culture, parce que ça met en présence des peuples sur la base d'intérêts immédiats. Là, c'est des intérêts commerciaux, concrets. Alors que la culture, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. On ne voit pas ce que la culture peut traduire, peut soutenir d'intérêts immédiats. Même à long terme, on ne voit pas. C'est-à-dire que des gens se rassemblent, quelque part, ils discutent. Qu'est-ce que ça produit? Ils ne le voient pas. Hein. Ils passent un moment à discuter, c'est tout. Par contre, quand ils font du commerce, ils voient immédiatement que leur intérêt les oblige à pratiquer au moins la même langue, à faire un effort de compréhension et à établir des liens durables. Parce que le commerce, ce n'est pas au coup par coup, c'est des liens durables, structurants. Et donc, et là s'installent des habitudes, des mécanismes qui rapproche les gens, et à partir de là, une fois que ces structures, ces échanges commerciaux s'installent et deviennent durables, pérennes, il peut y avoir de la récréation autour. C'est le spectacle, l'échange de poèmes, l'échange de chansons, l'échange d'informations, l'échange de ci, l'échange de ça, et ça se structure. Et tant que les intérêts commerciaux sont là, la culture rapproche. Et quand les intérêts commerciaux divergent, la culture, d'une manière générale, peut être un élément de division. Pas forcément. Elle peut aussi atténuer les conflits commerciaux. Mais généralement, quand les intérêts commerciaux sont divergents, il y a rupture de la relation culturelle, quasiment.
Je rebondis sur le rapprochement que vous faites, même s'il semble opposé, culture et relations commerciales. J'ai remarqué que dernièrement, il y a tout un mouvement au Maghreb de ce qu'on appelle des logiques de patrimonialisation. Mais ces logiques de patrimonialisation, c'est-à-dire des logiques mémorielles, de mise en valeur du patrimoine national, elles sont en quelque sorte, elles aussi, en accord avec une idée de commerce, c'est-à-dire qu'on met en valeur le patrimoine, mais pour des visées commerciales, c'est-à-dire pour le tourisme, par exemple, pour mettre en valeur ce patrimoine, mais à destination d'un certain tourisme. Est-ce que vous pensez que, malgré tout, il peut y avoir des échanges par ce biais-là, et peut-être humaniser un peu plus cet aspect culturel ?
Franchement, je n'y crois pas. J'ai beaucoup de mal à penser que des échanges culturels peuvent être, on va dire comme ça, spontanés et gratuits. Je ne sais pas, regardez en Afrique simplement. Je parle en tant que maghrébin. Nos intérêts commerciaux avec l'Afrique noire sont nuls. On a très peu de. Nous n'avons rien à leur vendre et ils n'ont rien à nous vendre. Eh bien, nos relations culturelles sont absolument voisines de zéro. Les gens, quand on parle aux Algériens de dire trois mots sur nos voisins du Sud, immédiat, les Maliens, eh bien, ils sont incapables de vous dire plus que, ben, je ne sais pas, je crois que c'est des Noirs. Voilà, c'est tout. Ils savent qu'ils sont Noirs. Est-ce qu'ils sont Bambara, ils sont ceci, ils sont musulmans, ils ne le savent pas, ou alors vraiment, c'est des informations comme ça, très, très. On peut leur dire aujourd'hui, ils les oublient 5 minutes après. En revanche, avec le Nord, où les relations commerciales sont. Et les relations patrimoniales aussi. Hein, donc, on partage quelquefois, on peut partager des territoires où on partage une mer. Les Européens pêchent en Méditerranée, nous pêchons en Méditerranée, c'est notre réservoir. Voilà, donc sur le plan patrimonial, tous les deux, on exerce un droit de propriété sur quelque chose. Donc, et ça rapproche beaucoup. De là naissent toutes les manifestations culturelles possibles et imaginables. Mais encore une fois, tant que les relations commerciales sont bénéfiques à l'un et à l'autre, il y a échange culturel. Il s'arrête quand ces échanges disparaissent. Et il tourne allègre quand les relations commerciales, finalement, se transforment en relations du type impérialiste. Elles ne profitent qu'à une partie, au détriment de l'autre. Pendant très longtemps, le Sahara était entre les peuples riverains, et on parle de peuples riverains, comme de la mer qu'est le Sahara. C'est la mer intérieure, on l'appelle. Et à l'époque, il y avait des liens vraiment très, très importants entre les riverains du Sahara. S'échanger beaucoup de choses, les esclaves, mais aussi des produits, l'ivoire, le truc, etc. Enfin, avec la colonisation de l'Afrique du Nord, nos intérêts commerciaux avec le Sud et les riverains du Sahara ont disparu, se sont éteints, et les relations culturelles se sont petit à petit éteintes, il n'y a plus rien. Moi, j'ai travaillé au fin fond du Sahara et j'ai pu constater que on se regarde comme on regarderait des extraterrestres. Les gens les Touaregs, les nomades, quand ils passent au Sahara, mais pour eux, ils sont au Sahara, ils sont chez eux. Mais ils rencontrent des blancs. Il y a absolument. Vraiment, on se regarde comme des extraterrestres, quoi. Alors, malgré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts faits pour établir des relations intenses avec les deux rives du Sahara, ça reste très insignifiant, pour ne pas dire inexistant, quoi. Et même quelque chose qui est naturel, qui pourrait servir de lien, comme la religion, ne participe d'aucun lien, puisqu'il s'agit de deux formes d'islam différentes.
Exactement. Un islam un peu plus animiste, comme on dit,
Oui, voilà.
en
Et
Afrique
puis,
subsaharienne.
les Maliens sont plus imprégnés par le soufisme
Oui.
que les gens du Nord, qui sont malékites, sunnites, malékites. Et on peut même dire qu'il y a des airs d'hérésie dans le soufisme étant une hérésie pour les sunnites, une hérésie grave d'ailleurs.
Absolument. Mais il y a en ce moment une migration des Africains, comme on les appelle au Maghreb, parce qu'on considère que les autres sont des Africains, alors que nous, c'est les Maghrébins, alors que nous faisons partie de la même, du même continent. Il y a une migration vers le nord, mais qui s'arrête, par exemple, au Maroc. Je ne sais pas ce qu'il en est en Algérie, mais c'est du provisoire qui dure. Et vous ne pensez pas que certaines formes d'échanges pourraient découler de cela?
Ben non, malgré cela, donc effectivement, il y a beaucoup de gens du Sud qui sont... Ben, il y a des Maliens, mais il y a aussi beaucoup de... Surtout, c'est surtout des gens de l'Afrique chrétienne, noire chrétienne.
Oui, hein,
donc Togo, Congo, Cameroun... etc., qui remontent à travers le Sahara, en Algérie, au Maroc. Et là, donc, ils essayent de... ils se placent sur les chantiers pour gagner un peu d'argent, mais c'est un transit, simplement. Hein. Ils attendent de pouvoir passer en... ils font un peu d'argent pour pouvoir passer en Europe. Bah, à l'époque, ça fonctionnait, maintenant, ça ne fonctionne plus. Hein. Les contrôles sont tels que... Et du coup, ils sont comme... toujours pour venir à l'idée que l'image du Sahara qui est une mer, il s'échoue. Voilà, comme des bateaux qui s'échouent sur une plage. Ben ils arrivent au nord et puis voilà, il n'y a plus de sable. Et là, ils s'enlisent. Ils attendent le moment de passer au nord. Ce moment ne vient plus parce que les passeurs sont pourchassés. Les opportunités de passer en Espagne, en Italie sont quasi nulles aujourd'hui. Et donc, ben ils sont là. Ils ne peuvent plus revenir chez eux parce que c'est culturellement pour eux, c'est une humiliation. Parce que partir se fait sur la base d'un investissement financier lourd. C'est des gens qui, les familles, les villages, cotisent pour payer le passage de ces jeunes. Et il faut qu'ils gagnent de l'argent pour pouvoir rembourser le... Et donc, ils arrivent en Algérie, au Maroc. Alors, c'est malheureux ce qui leur arrive. Il faudrait peut-être attirer l'attention des organisations internationales, parce que ce qui se passe dans nos pays, c'est un peu un crime contre l'humanité. Parce qu'ils sont, en fait, réduits à l'esclavage. Ils arrivent, ben ils ont pas, ils sont là, ils traînent, ils n'ont pas où aller. Arrivent des négriers qui les rassemblent dans des coins, ils les traitent, mais alors d'une manière absolument abominable, et puis ils les vendent dans le chantier. Donc ils les déplacent d'un coin à l'autre de l'Algérie, du Maroc, pour travailler dans des chantiers où généralement on ne les paye pas. Parce que... le gars qui prend 30, 40 ouvriers pour servir dans la construction d'un immeuble ou je ne sais pas quoi, il ne leur donne pas d'argent parce qu'il a peur que il faut qu'ils apprennent le métier et ils s'en vont. Et ils vont travailler à leur compte. Donc ils ne les payent pas. Ils sont obligés de terminer le chantier. Et là, c'est un bras de fer entre... alors ils les payent, ils ne les payent pas, ils leur donnent un peu... Et puis les chicanes en leur disant « Pendant 2 ans que tu travaillais pour moi, je t'ai nourri, soigné. » En fait, ils ne les ont pas nourris, ils leur ont donné quelques casseroles. De temps en temps, ils leur jettent un sac de pommes de terre. Voilà, ils vivent comme ça. Et ça génère plein de choses. Donc, quand il y a des filles, ben, c'est la prostitution.
L'esclavage sexuel.
Et ainsi de suite. Enfin, il y a des choses abominables. Moi, j'ai même écrit à... au secrétaire général des Nations Unies, parce que j'ai enquêté sur ces choses-là, et j'ai dit, je ne comprends pas que l'ONU, au moins pour l'Algérie, je parlais au moins pour l'Algérie, que n'attire pas l'attention de... ne condamne pas le gouvernement algérien, il faut trouver une solution. Donc, ça se passe comme ça.
Il n'y a pas de projet libre sur ce sujet.
Que voulez-vous qu'il y ait comme culture là-dessus?
Mais justement, est-ce que le rôle de la littérature n'est pas aussi de... je ne sais pas, non pas de dénoncer, mais au moins de représenter pour donner de la visibilité à ces choses-là.
Ben oui, je l'ai dénoncé dans un de mes livres, Araga, il y a tout un chapitre, d'ailleurs, qui a inspiré quelque chose dans la télévision Arte, qui a tourné un reportage, mais où je montre cela. Mais bon, résultat, rien. Voilà. Le résultat, c'est que les flux sont toujours là. Des gens viennent de toute l'Afrique. Ils sont dans des conditions psychologiques terrifiantes. Ils sont prêts à tout. Souvenez-vous que Kadhafi les utilisait comme mercenaires. Tous les gens qui arrivaient, les filles étaient envoyées dans les casernes, elles servaient de prostituées pour les militaires de Kadhafi. Et les hommes étaient enrôlés, donc il avait monté, sous prétexte qu'il était le roi des rois. Il s'était nommé roi des rois des tribus africaines. Il avait créé, soi-disant, une armée africaine. En fait, il en a fait des mercenaires qui lui étaient totalement dévoués. Et quand il y a eu la révolte contre lui, il a utilisé ses armées pour réprimer les Libyens. Et alors, je dois dire qu'ils l'ont fait avec une férocité incroyable, parce que c'était une vengeance terrible contre, d'une manière générale, contre les Maghrébins, qui les humilient, qui sont très racistes envers eux, qui les exploitent et qui les... Donc, s'il y a culture, c'est la culture de la haine, hein, du mépris dans un sens et de la haine dans l'autre. Moi, je me souviens, les journaux algériens avaient, pour une catégorie d'Africains, qui, eux, ne sont pas des migrants de ce type. Hein. C'est des gens qui viennent de ces pays-là pour étudier à Alger. Ils font des études de médecine, ils sont à la fac, à l'école nationale d'administration, l'école polytechnique et tout ça. Et donc, ils y viennent des milieux aisés, mais il y a un racisme absolument effrayant à leur égard. Mais absolument effrayant. Il faut dire que le racisme, à la limite des Américains, à l'égard des Noirs, on peut dire que c'est tout gentil, hein, tout gentil. Hein. Donc je reviens sur l'idée que ce sont les intérêts commerciaux qui tissent des relations culturelles, et puis à partir du moment où ça s'organise, la littérature, c'est surtout un mot, hein, donc il faut parler d'industrie de littéraire, parce qu'il faut aussi... des éditeurs, il faut le livre, voilà, c'est ça. La littérature a un véhicule, c'est le livre il faut le produire, il coûte très cher, il se vend très cher, et donc la littérature pour le moment reste une invention occidentale. En Occident, elle participe de la culture et des liens. C'est pas le cas chez nous où l'édition du livre est très très récente. Quand on édite un livre en Afrique et même en Algérie, en Algérie, quand un éditeur publie littérature, en général il ne publie pas de littérature, il publie plutôt des livres d'histoire, l'histoire, la sociologie, des choses comme ça, ou même scientifiques. Et quand la littérature... il tire maximum, alors 1000 exemplaires, c'est un best-seller, quoi. Donc, ça fait aucun lien par rapport à en France où un livre qui est porteur de sens et qui va donc générer du lien est tiré à jusqu'à 1 million d'exemplaires. Alors, donc, si on ajoute la traduction, ça peut aller jusqu'à 2-3 millions d'exemplaires. Et c'est. Et il y a une suite, c'est l'adaptation au théâtre, au cinéma, à toute l'industrie du livre, comme ça, comme les festivals, les salons. Ce n'est qu'à ces conditions que la littérature joue un rôle, sinon.
Et où est la liberté de l'écrivain ? Que devient la liberté de l'écrivain dans ce contexte ? Est-ce que les maisons d'édition n'imposent pas leurs lois à l'auteur qui a besoin d'un lectorat ?
Il n'en a aucun. Mais il n'y en a aucun parce que les éditeurs, dans ces sociétés-là, la littérature est une chose trop nouvelle pour avoir son territoire. Elle est, avec l'islamisation des sociétés musulmanes, la réislamisation des. La fiction est considérée comme hérétique, c'est une hérésie. L'idée est que Il n'y a que Dieu qui peut créer des personnages, enfin des humains. Un homme qui crée des personnages dans, comme ça, de la fiction, commet, fait acte d'hérésie, de blasphème. Donc ce n'est pas admis du tout dans les milieux islamistes, hein, alors que dans les milieux modernes, évidemment, ces gens, les gens lisent et ils ont un rapport au livre qui, comme ici, quoi. Mais les maisons d'édition ne publient très peu de littérature. Et l'industrie du livre n'existe pas. Et donc, mais lui-même, l'autocensure et la censure sont très importantes dans l'entente. Regardez par exemple au Maroc, vous savez bien que on peut écrire. Alors on vous dit, vous pouvez écrire ce que vous voulez, sauf. Alors, puis il commence la liste. Pas sur le roi, pas sur l'islam. Etc. Vous faites un film sur l'homosexualité comme machin, il se retrouve quasiment en prison. L'actrice là, qui a été battue à mort, là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les gens sont en butte à des censures administratives, politiques et sociales par les gens. Tellement féroces que le moindre mot. Mon compatriote Kamel Daoud enfin, et encore, il ne s'est pas exprimé là-bas, en Algérie, il s'est exprimé à Paris, en disant dans un journal qu'il n'était pas croyant. Le fait de dire qu'il n'était pas croyant, simplement cela, ben, a fait qu'un imam en Algérie l'a condamné à mort. Donc vous voyez que l'autocensure, la censure politique, etc., plus la censure économique, les livres qui viennent de France et qui se vendent en Algérie valent quasiment un salaire. Donc comment voulez-vous que les gens achètent un livre? Imaginez, est-ce que vous pensez que ici en France on achèterait des livres, un roman, s'il était vendu 100 euros? Enfin, donc la contre-valeur de personne, à part quelques riches. Voilà, c'est ça la réalité, quoi.
Mais en Europe, vous pensez que l'écrivain a plus de liberté? Est-ce que les maisons d'édition n'imposent pas aussi certaines lignes éditoriales, certains sujets plutôt que d'autres?
Je ne crois pas. S'il y a censure, c'est dans.
Non, pas censure, mais peut-être réorientation, où on favorise certains
Non.
sujets plutôt
Ah,
que
voilà,
d'autres.
voilà.
Voilà.
Ça, oui. Bah, c'est-à-dire que l'éditeur, il accepte ce qu'il veut. Hein. Donc, vous lui présentez votre manuscrit, il ne va pas vous dire faut changer ça ou écrire ça de telle manière, et il ne vous dit pas ça. Il vous dit je publie ou je ne publie pas. Vous ne savez pas pourquoi il ne publie pas. C'est peut-être pas, effectivement, d'abord parce que c'est un mauvais livre, tout simplement, mal écrit, que bon, ça peut être un sujet pour lequel il n'y a pas de public. Il va dire, oui, bah c'est peut-être un chef-d'œuvre, mais voilà, publier un chef-d'œuvre en 20 exemplaires, bon, est-ce que ça vaut le coup? Donc, c'est des raisons comme ça. Mais moi, je n'ai pas senti. Moi, je suis chez Gallimard depuis maintenant 17 ans. J'ai jamais senti que la moindre pression dans un sens ou dans l'autre. Et jamais mes livres ont été corrigés, à part changer une virgule ou dire, ah là, ce mot-là, il est bizarre. Est-ce qu'il s'écrit comme ça? Oui, non, je tiens à ce qu'il soit écrit comme ça. Je l'ai écrit comme ça, il faut le laisser comme ça. Ah, bon, c'est vrai, c'est une faute. Bon. Ça se limite à ça. Hein. Donc, je ne crois pas que les auteurs soient soumis à. Je ne crois pas du tout. Maintenant, évidemment, l'éditeur peut ne pas accepter certains écrits, alors pour des raisons pas de ce type, pas idéologiques, je ne pense pas. C'est du type, on va dire, par peur, par exemple. C'est un éditeur qui dit, oh là là, c'est un traite, l'islam, avec tout ce qui se passe, moi je risque de. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être certaines questions, certains livres, vous les publiez et ils déclenchent presque immédiatement des recours à la justice. Parce que diffamation, parce que antisémite, négationniste, vous voyez un peu. Et donc là, les éditeurs, quand ils reçoivent un livre, ils disent, attends, bon, ils donnent ça à leur avocat. Il dit, voilà, nous, on a lu, donc on veut publier, c'est très intéressant, mais on soupçonne qu'il pourrait y avoir des réactions du, je ne sais pas moi, association musulmane, le CRIF, la LICRA, le truc, qui vont nous attaquer en justice pour ceci ou cela, homophobie, peu importe. Et là, les avocats, ils disent, oui, mais c'est sans, aucun juge n'accepterait une plainte, ceci, parce que c'est rédigé... c'est au conditionnel, c'est une fiction, c'est pas l'auteur qui s'exprime, c'est un personnage de la fiction. Donc aucun juge n'enrôlerait cette affaire-là. Voilà ce qui peut se produire.
Une dernière question peut-être, si vous permettez. Que peut la littérature, finalement, aujourd'hui?
À long terme, elle peut beaucoup. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas la littérature qui peut, c'est ce que les institutions font de la littérature. Donc, imaginez-moi, je tiens un discours, peu importe ce qu'il est, disons même un discours très intelligent et très, tout ce que vous voulez, mais il reste un discours confidentiel, parce que vous lirez mon livre et elle, bon, c'est des échanges entre nous, entre eux. Elle commence à devenir un outil puissant, que lorsque l'éducation nationale ou l'université en fait un instrument de... Donc il est mis au programme. Là, c'est différent. Là, quand vous commencez à... des étudiants, des lycéens travaillent sur le contenu de vos livres, là, ça participe de la construction de la culture nationale, du récit national. Alors, dans nos pays, moi, je ne connais pas d'écrivains qui soient enseignés dans nos pays. Donc nous ne participons pas. Voilà. Alors encore plus moi qui critique le régime et qui critique tout. Donc il est hors de question de me mettre à... Il y a bien quelques étudiants qui font des mémoires ou des thèses sur tel ou tel de mes livres, mais ça produit rien. Quoi. C'est des épiphénomènes. Et je pense qu'à ce jour, aucun de nos grands écrivains n'est dans les programmes d'enseignement. Alors au Maroc, il y a quelques écrivains qui sont...
Mais, c'est vrai, sont... oui, le moins... voilà, le moins subversif.
Voilà, c'est les moins... Et on ne prend que les aspects, on va dire, sympathiques de leur... sympathiques pour le régime. De leur, mais ça, on le constate même en France, même en Europe. On commence à... le récit national n'est plus le même maintenant. Ce que le peuple français, à travers ses institutions, veut donner comme image de lui-même est en train de changer. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, quasiment, c'est même pas un chapitre maintenant dans les cours d'histoire au lycée. C'est même pas, c'est une page. Alors que pendant toutes les années 50, 60, c'était des chapitres entiers, on savait ça dans le détail, et ainsi de suite. La colonisation, en revanche, qui faisait 2-3 lignes dans les livres d'histoire, aujourd'hui fait 2-3 pages. Elle fait 2-3 pages, il y a quelques éléments, mais tellement neutres, qu'à la limite, on peut les supprimer. Parce que ça participe juste de l'idée que de dire « Ah, maintenant en France, il y a quand même 20, 30, 15 ou 20 ou 30% de nos élèves qui sont liés à d'autres cultures également, Maghreb, Maroc, Algérie, tout ça, etc. Ou l'Afrique noire et tout. Et qu'on ne peut plus aujourd'hui passer sous silence que leur pays ou le pays de leurs parents ont été colonisés par nous. Alors il y a 3-4 lignes pour dire ça, puis on parle de... C'est un peu de folklore, un peu de trucs, mais pas la colonisation en tant que violence exercée contre... Et ainsi de suite. Quoi. Donc ça reste... voilà, c'est les institutions qui donnent force à la littérature, mais les institutions aujourd'hui... font un tel tri des choses que le discours est neutralisé. Quoi. Comment, par exemple, Voltaire aujourd'hui, qui a écrit des pages, c'était un islamophobe, mais alors, et un raciste fou. Il n'y a pas plus raciste et plus islamophobe que Voltaire. Mais est-ce que vous imaginez qu'on mette ces pages-là dans mais aucun livre d'histoire, et même au niveau de l'université, on ne parle pas de ces choses-là. On parle du Voltaire, voilà, qui était dans la lignée des encyclopédiques, des encyclopédistes, et qui a un peu comme ça amené aux Lumières. Mais ces aspects-là, on n'en parle jamais.
À l'époque, on ne parlait pas encore d'islamophobie. Et Voltaire, c'était peut-être... Enfin, ce qu'il a écrit sur l'islam, entrait aussi dans sa logique de critique contre la religion et le fanatisme en général.
Oui, voilà. Et le fanatisme mahométan en particulier.
Oui, mais l'Église aussi, c'est-à-dire qu'il l'avait aussi dans la visée de l'Église, donc c'était aussi un détour. Et bon, il y a eu quand même en France... aux classes préparatoires, au programme des classes préparatoires Kati Biassine. Cette année, au programme de l'agrégation Mahmoud Darwish. Bon, il y a...
Voilà,
il y a un
France,
début, les choses bougent petit à petit.
Mais pas dans leur pays, quoi.
Oui, ça c'est...
Pas dans leur pays, ou en Algérie, au Maroc, qui connaît Mahmoud Darwish? C'est un nom très vague. Et à peine les intellectuels, même les intellectuels... Ils connaissent évidemment Mahmoud Darwish, mais qui l'a lu? Très peu. Et donc, on sait seulement que c'est un poète engagé palestinien, et qu'on suppose que...
Pourtant, Nassir Khalifa l'a fait connaître grâce à la chanson. La chanson, parfois, vous voyez, vous parliez tout à l'heure des médiations culturelles.
Oui, c'est vrai.
Nassir Khalifa a fait connaître...
France Culture lui avait consacré... plusieurs émissions, ils ont même fait un coffret génial d'interviews
avec les frères Jabran.
Laura Adler et tout ça, qui sont magnifiques. Mais non, c'est sûr.
Merci beaucoup pour votre patience et pour vos réponses.
Merci. Ouais, c'est bien.